Bonjour, je suis psychothérapeute. Je vous ai entendu par hasard hier en rentrant du travail. Je trouve scandaleux que vous utilisiez l'argent des contribuables pour faire des émissions en faveur des clandestins expulsés et que vous utilisiez cet argent également pour faire de la propagande au service de l'islam. Si un jour les islamistes prennent le pouvoir en Europe, cela sera sans doute et très certainement à cause de gens comme vous. Vous ne trouvez pas suspecte cette Radija, femme marocaine, musulmane, qui a 32 ans et qui est venue comme ça étudier la sociologie à Paris, sans mari ni enfant? Vous ne connaissez pas du tout l'islam. Si vous le connaissiez, vous n'auriez jamais fait cette émission. Vous êtes d'une naïveté et d'une puérilité que je trouve navrante. Je suis mère de famille, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants et je vous avoue que je suis scandalisée par ce que j'ai entendu à votre antenne. Nous allons vraiment vers la décadence. Voilà. Je viens d'entendre ce reportage, donc ce dialogue avec Radija. Je suis mais heureuse d'avoir entendu ça, c'est super. Voilà, je suis française dite de souche, modeste prof d'allemand, et par solidarité avec les petites jeunes filles qui ont été exclues de l'enseignement, je leur donne des cours à la mosquée de Strasbourg où j'habite. Et je dois constater que à chaque fois que j'essaie de parler du problème du foulard et donc de ces exclusions qui ont eu lieu dernièrement avec des amis de gauche, des amis féministes, des collègues profs de philo, etc., je m'entends dire à chaque fois que le voile, c'est le symbole de la soumission de la femme. Et je réponds que chaque femme a, selon sa culture, sa façon de s'émanciper. Et on me répond qu'elles n'ont pas la bonne façon et que nous, les Français, nous savons mieux qu'elles ce que c'est que l'émancipation. Et ça me fait mal d'entendre des choses comme ça. Et c'est pourquoi, vraiment, je te remercie de ton émission, c'est super. Alors, longue vie à l'émission Là-bas si j'y suis, et longue vie à ce que M. Dassault appelait les idées malsaines. Vraiment, c'est super, merci. Ok, ciao.
Voilà, France Terre de Contraste, Là-bas si j'y suis, émission de Contraste. Deux messages parmi des dizaines et des dizaines qui vont effectivement d'un bord à l'autre de la décadence que cette émission encouragerait par son soutien affirmé et militant à l'islamisme. Là-bas si j'y suis est le refuge, comme l'on sait, de Ben Laden. C'est lui qui nous envoie ces messages que nous diffusons ensuite. Ou bien cette prof d'allemand, elle l'a bien dit la dame, donc appartenant au corps enseignant et qui elle est à, nous semble-t-il, compris ce qu'on a essayé de vous faire entendre hier. C'est un très très simple dialogue entre notre reporter Olivia et Radija, cette jeune femme, 32 ans, d'origine marocaine, qui vit en France, et qui est ingénieure informatique, qui fait un diplôme de sociologie, qui est une femme comme n'importe quelle femme d'aujourd'hui sur cette planète, sauf qu'elle a une chose très 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 particulière, c'est qu'elle porte le voile et que l'on pense à un drapeau, que l'on pense à un string, eh bien on se dit que c'est fou ce qu'un petit morceau ou un grand morceau de tissu peut déclencher de passion, de délire, de massacre, de sang et de larmes. Alors il n'y a pas de sang sur le répondeur, pas de larmes, pas de massacre, mais de la passion et du délire, il y en a quand même pas mal. Et puis il y a aussi de la raison, et puis il y a de l'interrogation, il y a tout ça. Et c'est ce que nous allons entendre et écouter aujourd'hui, vos messages, en revenant sur des propos tenus par Radija. Auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base. J'y suis après une brève facétie du nouveau comique révélé par France Inter.
Serge Dassault.
Aujourd'hui, nous sommes en train de crever à cause des idées de gauche qui continuent. Aujourd'hui, c'est les Chinois qui s'enrichissent, c'est les Chinois qui vont racheter toutes les entreprises, et donc, comme des imbéciles, on dit, on a les qui sont sociaux, pas travailler. Bon, on va tous au chômage, c'est tout.
Bonjour Daniel, je suis en Haute-Savoie. Sais-tu que c'est une bonne idée que d'avoir mis des rires sur les paroles de Monsieur Serge Dassault ? Parce que le lendemain, sur la radio suisse romande, Monsieur Peter Hassler a dit « qu'il fallait limiter les licenciements chaque fois que c'était possible, car il y a un coût pour les entreprises que d'avoir des employés qui se sentent en insécurité permanente. Qui c'est, Monsieur Peter Hassler ? C'est le chef de l'Union patronale suisse. Au revoir.
Bonjour, Laurence Tinière, secrétaire générale du syndicat CGT du Centre hospitalier suisse frontalière. Voilà, je vous appelle par rapport à Monsieur Dassault. Il faut savoir qu'il est président du conseil d'administration de l'établissement du Centre hospitalier suisse frontalière. 3700 salariés avec les médecins. Et les salariés sont pas contents de son intervention de vendredi dernier. Il faut savoir qu'ils vont lui signifier demain au conseil d'administration et qu'ils vont lui demander sa démission. Parce que c'est indigne de vouloir appliquer la politique qu'il veut appliquer de ce gouvernement et de dire ce genre de choses à l'antenne. Même si on peut lui donner des circonstances atténuantes de sénilité, on peut pas accepter ce genre de choses. Voilà. Au revoir.
Salut Daniel et toute l'équipe, c'est Michel de Brignoles. Alors un petit coup de gueule d'abord. Une jeune femme d'une trentaine d'années devant un Intermarché, devant elle une affiche, j'ai pas d'argent, j'ai pas de travail, donnez-moi un sou pour manger. Je suis allée la voir, personne daignait aller la voir, tout le monde avait peur, hein, on se cache les yeux devant cette misère. Eh ben c'est une Roumaine qui était là, tu vois. Et un mec qui me dit comme ça, encore elle a de l'argent pour se faire atteindre les cheveux. Mais oui, mon bon monsieur, mais s'il faut qu'elle se fasse des clients. Et puis j'ai dit, après tout, il y en a qui s'en foutent plein les poches et d'autres qui sont dehors à faire de la mendicité. Mais où on va? C'est le monde à l'envers. Alors, ben, s'il faut en revenir à la lutte des classes, s'il faut les pendre haut et court, ces bourges, à la fin, eh ben, on le fera. Qu'est-ce que c'est cette mondialisation qui nous pille tout? Et l'euro? Ah ben, on l'a bien vu, l'euro. Et la vie est de plus en plus chère. Alors, ras-le-bol, Daniel. Il y en a vraiment marre. Et puis, je tiens à te signaler aussi que le personnel de mutuelle de l'EDF sont en manifestation, font des mouvements, parce qu'on veut casser aussi les mutuelles EDF, les activités sociales. Évidemment, comme ça, les patrons s'en mettront un peu plus dans les poches. Alors les mecs, ben, ils manifestent. L'arsenal de Toulon est dans la rue. Et tout ça, évidemment, on le dit pas. Hein. Les journaux, var matin, ne le disent surtout pas. Hein. Alors Daniel, c'est vrai, c'est encore un coup de gueule, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Faut croire que de râler, ça tient en santé, parce que heureusement, j'ai la santé et je vais reprendre mon écharpe rouge et je vais voter non contre cette constitution qui veut nous foutre tout par terre. Daniel, on est à quelques jours de la Noël, je te souhaite, ainsi qu'à nos chers écouteurs, et parlant de joyeuses fêtes. Et puis, Raffarin, on l'aura bien, celui-là, et tous les autres. Allez, ciao, à bientôt.
Salut, il est quand même gonflé, ce Dassault. Il reçoit de l'argent public. Sans concurrence pour les commandes d'avions. Et il a l'indécence de mépriser les salariés, les pauvres, alors que lui, c'est un assisté de luxe. Relisez travail salarié et capital de Marx. On se croirait aujourd'hui. Il avait tout analysé, la mondialisation, le développement de la concurrence, etc. Pour en revenir à Dassault, char Dassault. Par quelques bouts qu'on le prenne, ce mec, il sent la guerre. Salut, c'est Noël d'Annecy.
Bonjour Daniel, bonjour à tous. J'appelle parce qu'aujourd'hui à Millau, on a inauguré le viaduc à notre façon. Hein. C'était les Suds Aveyronnais d'en bas. On a fait une opération péage gratuit, la première, peu à peu l'ouverture. Et en fait, parce que sous ce viaduc, et ben, en fait, il y a la désertification du milieu rural qui n'est pas assez productif et pas assez rentable. On assiste à une politique de grand déménagement du territoire, tout vers les métropoles. Et ici, ben, la vie se meurt peu à peu si on fait rien, si on lutte pas. Ça, c'était aujourd'hui. Et puis avant-hier, il y a eu la victoire de l'action judiciaire collective à Rion, où le tribunal a accepté de juger 170 faucheurs volontaires et comparants volontaires. Et on appelle tout le monde à multiplier ce genre de comparution volontaire pour toutes les actions collectives dans lesquelles quelques personnes seulement sont inculpées. Ça peut être le cas pour Calais, par exemple, ou quand les passagers d'un avion s'opposent à une expulsion. Donc ça serait formidable parce que dans quelques temps, on pourrait être comme ça des milliers, voire des millions de Français qui comparaîtrions collectivement et volontairement pour revendiquer une vraie justice, une justice sociale. C'est Jean-Yves, c'est Amio et à bientôt. Salut.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise alimentation. Voilà, cette l'île singulière, terre de Georges Brassens, Paul Valéry et Jean Villard, voit s'implanter un McDonald's. Nous étions une des rares villes de 40 000 habitants à ne pas connaître les joies du gras Big Mac et autres stupides fried chicken. Les électrons libres et les citoyens sétois vous invitent à manger une bonne macaronade, des huîtres de l'étang de Thau et des sardines grillées de la mer Méditerranée en face du McDo de Sète le samedi 18 décembre à partir de midi. Voilà. Soyez nombreux à souhaiter la malvenue à la malbouffe en terre sétoise. Au village sans prétention, j'ai mauvaise alimentation.
Salut Daniel. Ce matin, j'ai quitté Marseille comme tous les matins pour aller travailler à mon collège. Et à la sortie de Marseille, sur un pont, il y avait une affiche avec un grand cœur et avec une fille, je suppose, encore que, qui avait écrit « Denis, je t'aime ». Et c'était très, très, très joli. Et malgré la grisaille et malgré la contrainte du travail, eh bien, ça m'a mis de très bonne humeur. Et je voudrais dire que c'était vraiment, vraiment très sympa, très joli. Et que la personne qui a écrit ça, eh bien, ce n'est pas qu'à Denis qu'elle a donné du bonheur. Voilà, bisous, bravo à ton émission. Ciao, Daniel.
Salut, c'est Daniel Mermet, la bas si j'y suis avec Olivia Gesbert, Khadija, le jour d'après.
Flight number 2, arriving from
Houston. Je crois que monsieur Mermet a bien raison, ça va chauffer. J'écoutais votre superbe radio pour me distraire un peu en faisant de la compta sur le voile, et effectivement, j'entends votre invité qui parle d'intolérance vis-à-vis du voile. Ben ouais, c'est bien, c'est vachement sympa de dire ça, parce qu'effectivement c'est une réalité, il y a une forme d'intolérance. Le problème c'est que lorsqu'on voyage un petit peu, il n'y a pas que la France, il y a aussi tous ces pays musulmans dont certains sont assez remarquables, comme par exemple l'Arabie Saoudite, où là l'intolérance c'est zéro aussi vis-à-vis des Occidentaux. Je parle de l'Arabie Saoudite, il y a aussi le Yémen, il y a aussi beaucoup de pays comme ça. Très musulman et très intégriste aussi, hein, qui ne supporte pas la culture des autres. Alors moi, ce que je voudrais dire, c'est que bah, c'est effectivement, moi je prône la tolérance, mais il faut aussi prôner d'autres valeurs, notamment les valeurs d'intégration. Moi je suis pas raciste, et pourquoi je suis pas raciste? Parce que j'ai un grand-père qui était kabyle, j'en ai un deuxième qui était italien, je suis français, de souche, ou d'origine plutôt, enfin, je suis bien intégré, quoi. Et l'intégration, c'est l'une des plus belles valeurs de la République française. Ça, il faut pas l'oublier. Parce que pour celui qui a voyagé un petit peu dans le monde, et moi c'est mon cas, j'ai voyagé pendant plus de 15 ans, eh bien on est bien content de revenir sur le sol français, et en se disant qu'effectivement, on a la chance de vivre dans un pays libre. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.
Tu comprends un peu le regard de certains Français, justement, qui n'acceptent pas le fait que certaines filles soient portent un foulard ici en France, avec l'idée que peut-être que si moi je vais en Iran, je sais que je vais devoir le porter, le foulard, j'aurai pas le choix. Il y a certaines règles, voilà, et qu'on peut dire, bah ici, peut-être la règle, c'est d'afficher le moins possible ses convictions religieuses.
Entre en fait avoir du respect par rapport à une certaine par rapport à une culture, ça je comprends. Bah, moi aussi quand je suis venue en France, la première des choses, c'est que j'ai demandé qu'est-ce qu'on a le droit de faire autour d'une table, quand on est enfin on s'assoit à manger, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Mais par contre, à un certain moment, il faut aussi respecter des libertés de conscience et des choix, en fait, je dirais individuels, du moment que ça ne vient pas perturber l'ordre public. Après, comparer l'Iran et la France, oui, mais enfin, c'est pas pareil. L'Iran, c'est pas la, enfin, on n'est pas dans une démocratie dans la mesure où on impose des choses à des gens. Moi, ce que j'aimerais bien, d'ailleurs, même Shireen Ebadi, en fait, le prix Nobel, il le dit elle-même, elle qui a vécu en Iran, que pour elle, la vraie démocratie, c'est justement laisser ce choix en fait à la personne. S'il a envie de le porter, qu'il le porte. S'il n'a pas envie de le porter, qu'il le porte pas. Je me vois pas imposer moi aussi un djellaba et un babouche en fait à un Français ou une Française qui va venir au Maroc. Moi, quand je suis venue ici en France, il y a plein de choses que j'ai changées dans ma façon, par exemple, de faire certaines choses.
Comme quoi?
Ben, genre, par exemple, bah, tout bête, quoi. Enfin, qui me vient là à la tête, au Maroc, on mangeait à la main. Ben, ici en France, ça se fait pas, on mange avec couteau et fourchette. Donc, je mange avec couteau et fourchette. On me l'a pas imposé. Mais c'est en fait des choses sur lesquelles en fait j'inspecte autour d'une table que voilà, ça se fait pas dans ce que tu...
Voile. Voilà, c'est tout. Il suffit de dire ce mot, voile, ou foulard, comme vous voulez, et hop, les passions se déchaînent, les certitudes s'assènent, le délire s'installe. Voile ou foulard. C'est exactement ce qui s'est passé avec l'émission d'hier. Vous allez voir, ceux qui n'ont absolument pas écouté ce qu'a dit Khadija dans ce long dialogue avec Olivia, et ceux qui ont écouté et ceux qui n'ont pas écouté. C'est comme ça, ce mot déchaîne des passions. On pensait que ça s'était un peu apaisé, que c'est cette hystérie collective, sociale et politique qui a suivi l'affaire du voile, cette opération évidemment savamment menée à la fois de diversion et de division, s'étant un peu éloignée, s'étant un peu apaisée, c'était le moment peut-être de parler de quoi ? Mais pas tellement du voile, finalement. C'est une femme qui a parlé, qui s'appelle Khadija, je le disais, elle a 32 ans, elle est née au Maroc, elle est fille d'une famille de 8 enfants, ses parents sont des gens qui ont passé leur vie à élever leurs enfants. Elle nous disait hier, elle disait à Olivia que comment son papa, par exemple, était analphabète et s'était mis sur le tard à apprendre à écrire et à lire, alors que sur ses huit enfants, il en a 5 qui sont ingénieurs et 3 qui sont économistes. Fierté, bien évidemment. Dans son appartement où elle nous a reçus, elle a reçu Olivia, et ben on trouve sur les étagères, dans sa bibliothèque, on trouve Chomsky, on trouve Balzac, on trouve Bourdieu, à côté du Coran. Elle dit, elle répète que le Coran est l'objet de tout un tas d'interprétations différentes, ce qui évidemment est le cas de tous les livres sacrés. C'est même la propriété d'un livre sacré que de se prêter à toutes ces interprétations différentes à un moment donné et puis successivement différentes au fil des nécessités et des impératifs de l'histoire. Bref, on a parlé de tout ça, de la sociologie à laquelle elle voudrait bien consacrer sa vie, à ses engagements. Elle est militante, Amnesty International, dans différentes associations. Elle met son grain de sel, elle parle d'un mariage un beau jour, elle se mariera, etc. Enfin, c'est une femme tout à fait avec une destinée... Voilà, tout à fait courante, on pourrait dire aujourd'hui, sauf qu'elle porte le voile. Pourquoi ? Parce qu'elle a des convictions à la fois religieuses et à la fois personnelles. Elle ne veut pas être de ces beurettes portées à l'index qui ont réussi, qui sont assimilées, qui ont échappé à la brutalité des machos beurs, des quartiers et stigmatisés par les 3 V, le vol, le viol et le voile. Comme on les présente souvent, elle veut être fidèle à son histoire, à ses origines, à son histoire familiale. Et puis, elle a cette conviction, ses convictions religieuses. C'est à peu près tout ce qu'elle a dit. Mais elle l'a expliqué avec ses mots. Et ça a donc déclenché ses réponses sur ses répliques sur le répondeur de là-bas, si j'y suis. Et c'est vos réponses qu'on va écouter aujourd'hui. Jusqu'à 18h sur France Inter, là-bas si j'y suis, Khadija, le jour d'après.
Eh ben écoutez, je viens d'écouter Khadija Marfouk et je suis perplexe parce que les propos tenus par les femmes de Ni Pute Ni Soumise et SOS Racisme m'avaient convaincu de la loi contre le port du voile. Et elle me laisse perplexe. J'avoue que je sais plus quoi penser, si pour ou contre le port du voile. Je crois qu'avec cette loi, on s'est foutu dans une belle merde, quoi. Et en fait, c'est un peu une question sans réponse à traiter au cas par cas. Salut.
Voilà, je viens d'écouter l'émission sur avec le témoignage de Khadija. Eh ben, ça m'a réconcilié avec l'intelligence. Mais pas n'importe laquelle, celle du cœur. Ciao.
Et voilà, ça recommence. Ça faisait quelques émissions qui étaient pas mal, hein, qu'on écoutait avec plaisir. Mais là, ça recommence. On a eu droit au truc habituel. Ah, les pauvres légionnaires, ils sont si bien, ils sont tellement corrects, ils sont charitables, ils sont compréhensifs, c'est merveilleux. Tandis qu'en face, regardez, ces sales cons de laïcs, oh là 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 là, mais vraiment, c'est des cons, ces gens-là, ils comprennent rien. Alors, tu recommences, mermet, hein, ça recommence à nouveau. Hein, les gens, c'est vrai que dans les gens religieux, il y a des gens bien, mais ça n'empêche que nous qui sommes agnostiques ou athées, on a le droit qu'à ton mépris. Enfin, ça va durer combien de temps, ton truc? Non seulement tu ne nous donnes jamais la parole pour faire comprendre que chez nous aussi, il y a des gens qui réfléchissent et qui essaient de voir ce que c'est que la vie et qui essaient d'avoir de l'espérance, etc. Non, ça, tu peux pas. Hein, tu peux que nous mépriser. T'es où, mermet? T'es à l'Opus Dei? T'es à la loge nationale française, la seule reconnue par les loges anglo-saxonnes parce qu'elle est déiste? Enfin, c'est pas vrai, quand même. C'est pourquoi tu nous ignores. Non seulement tu nous ignores et tu nous méprises. On n'a jamais le droit à la parole. Jamais, jamais, jamais. Alors ça suffit. Moi, je suis écœurée, mais vraiment écœurée, hein.
Il y a aussi le fameux dévoilement des femmes en Algérie, donc c'était en 57-56, je ne me rappelle plus très bien, voilà, au milieu d'une grande place en Algérie, on ramène des femmes, enfin c'était des femmes qu'on a arrachées, soit à leur foyer, soit enfin, je dirais des pauvres femmes qui travaillent de ménage et tout, on les a ramenées au milieu d'une grande place en Algérie, et voilà, c'était toute une cérémonie de dévoilement, hein. Avec des applaudissements, les gens qui doivent applaudir des Européens qui sont venus là à émanciper la femme algérienne, ils lui enlèvent son foulard et on applaudit, vive l'Algérie française, Charles de Gaulle qui vient émanciper les femmes algériennes. Ben ça aussi c'est mon histoire, je comprends qu'il y a plein de Français peut-être qu'ils se souviennent pas de ça.
Salut Daniel, je suis marocaine et j'ai 3 sœurs voilées. Il me semble que limiter la liberté et la soumission de la femme à ce bout de tissu, c'est avoir du mépris pour l'intelligence des femmes. Je ne suis pas voilée, mais je ne pense pas que je suis plus émancipée que mes sœurs. Et je peux t'assurer une chose, c'est qu'elles sont bien loin d'être soumises. La vérité est que la soumission vient du côté du parti de l'opinion publique soumise à la propagande politique. Merci beaucoup, au revoir.
Bonjour, c'est Georges du Loiret. J'appelle parce que je suis quand même un petit peu surpris que dans une telle émission aussi modeste et aussi géniale, avec des sujets comme la mondialisation, Porto Alegre, Madame Lulu sous commandement Marcos, sous les bombes à Grozny, ou etc., on puisse, au détour d'une émission après tout banale, entendre une défense et illustration de l'obscurantisme religieux, aussi soft, aussi agréable à entendre, aussi, comment dirais-je, on peut dire un petit peu soporifique que celle-là. Et je suis extrêmement surpris. Moi, personnellement, j'ai toujours pensé, et je continue à penser, que l'obscurantisme religieux, qu'il soit catholique, protestant, islamiste, israélite ou d'une secte quelconque, ça n'a jamais été dans le sens du progrès, et certainement pas pour les femmes. Il suffit de voir l'ensemble des textes religieux, il est rare quand même que les femmes y aient le beau rôle. Alors j'ai du mal à comprendre cette espèce d'acharnement que tu suis à vouloir défendre en définitive deux choses qui ne vont pas ensemble et en faisant un amalgame. Défendre la dignité d'une personne qui se trouve minoritaire dans une société et qui peut être victime du racisme, victime de regards malveillants, c'est tout à fait bien, c'est tout à fait louable. Mais par la même occasion, faire en quelque sorte la promotion indirecte d'un obscurantisme de type religieux, là je vois pas. Je vois pas du tout, je vois pas l'intérêt, surtout pour un progressiste comme toi. Qu'est-ce qu'on dirait si un évangéliste américain, copain de George Bush, et qui revoit les manuels d'éducation en interdisant Darwin, arrivait dans notre société, était minoritaire, et qu'on prenne pitié de lui parce que c'est un faible en adhérant à ses idées. Défendre la dignité d'une personne, oui. Partager certaines idées régressives et obscurantistes, non.
Oui, bonjour, c'est Sylvie de Toulouse. Je voulais remercier l'équipe de la Basse d'Issue et Daniel Mermet pour ce très beau reportage qui a été fait sur cette jeune femme voilée, qui est une jeune femme marocaine moderne. Ça m'a vraiment fait du bien parce que je me suis rendu compte que depuis quelque temps, j'avais un regard terrible sur ces femmes voilées. J'avais beaucoup de mal à les comprendre et que je me sentais très intolérante, même hargneuse à leur égard, parce que je suis féministe et que ça me dérangeait beaucoup. Et ben voilà, c'était pour dire que ça faisait vraiment du bien d'entendre ça, qu'il faut les laisser parler, elles aussi s'exprimer, qu'elles ont peut-être de bonnes raisons. Voilà, merci encore, c'est vraiment très important d'avoir un avis comme ça sur la question.
Alors, promotion d'un obscurantisme religieux, dénonciation d'un racisme respectable ou simplement dialogue avec une femme d'aujourd'hui, une française d'origine marocaine. C'est, vous avez réagi très nombreux. Chaque message est intéressant. Chaque message est passionné et précis dans ce qu'il veut dire. Et on est très content. Parce que après tout, on est très fier d'être discutable, c'est-à-dire digne d'être discuté, pour reprendre la formule de Bourdieu. Alors, la pression sociale, bien évidemment. Ah oui, mais si elles portent le voile, c'est qu'elles sont obligées de porter le voile. C'est les maris, c'est les pères, c'est les frères qui les astreignent à porter le voile, ces jeunes femmes. Voilà une illustration avec Khadija et Olivia qui lui fait entendre un petit élément sonore.
Je voulais faire juste écouter le témoignage d'une fille que moi j'avais rencontrée en Égypte, au Caire, qui travaillait à l'Alliance française. On parle beaucoup en Égypte en ce moment d'un retour du religieux, et notamment pour les filles qui s'expriment ou s'extériorisent ou se manifestent à travers le port du voile. Et j'ai rencontré donc justement cette jeune fille qui raconte qu'elle, elle l'a mis parce qu'elle a l'impression qu'il y a une pression sociale pour ça, quoi. Alors on l'écoute.
Est-ce que pour toi mettre le voile aujourd'hui c'est un choix ?
On va dire c'est un choix pas spécialement libre. On va dire que toute la société m'a plutôt encouragée, on va dire, à le mettre. Tu vois, tout le monde le fait. Donc pourquoi pas ?
T'es musulmane ?
Oui. Comme je disais, en fait, les termes du Coran sont suffisamment vagues pour que chacun l'interprète comme il le veut. Bon, à mon avis, moi je l'aurais porté, mais peut-être plus tard, avec plus de recul, plus de réflexion peut-être.
Ah, t'as décidé de le porter à quel âge ?
Ça fait pas longtemps, ça fait un an et demi. J'avais 26 ans. C'était le premier jour du ramadan, bah tiens, voilà, j'essaye, pourquoi pas.
Et une fois qu'on l'a mis, on le retire pas ?
Socialement, c'est difficile. C'est une marche arrière, et puis, à la limite, tu le portes pas, c'est ton choix. Maintenant que tu l'as porté, c'est une responsabilité, tu dois pas l'enlever. Et du jour au lendemain, toi qui avais respecté, ben tu respectes plus. Maintenant que je me vois coincée, que je peux pas faire beaucoup de démarches pour, trouver un emploi correct, des trucs comme ça, oui, maintenant ça me fout les boulons. C'est un objet de mode, oui. Je crois que c'est une mode. Je crois que le voile, c'est une mode, plus qu'autre chose.
Ça va passer, alors ?
Bah, j'espère.
Et voilà.
Bah, je pense que déjà, cette fille-là, elle est très courageuse, dans la mesure où il ose elle-même, en fait, décortiquer, enfin, sa situation, il expliquait un petit peu pourquoi elle a fait ce choix. Nous tous, quand on sort le matin, même quand on est, par exemple, je sais pas moi, dans le métro et tout, on fait parfois des gestes et tout, parce que c'est le convenable.
Quand on est musulmane, on peut être convenable que si on porte le voile ?
Bah, on peut être convenable même sans porter le foulard. Au niveau du Coran, il y a plusieurs lectures. C'est comme ce qu'il disait, en fait, justement, cette fille-là dans ses petites interviews. Il y a plusieurs lectures possibles. Ce qui est écrit, en fait, dans le Coran, il y a effectivement un passage où, en fait, on recommande aux femmes, en fait, de rabattre leur, en fait, foulard, ou ce qu'il exprime certains en disant voile sur leur poitrine, sachant qu'il y avait une partie sur leur tête. Mais il n'y a pas un petit peu comme la prière, comme le jeûne, comme, c'est-à-dire les cinq piliers de l'islam, une obligation explicite de dire il faut absolument mettre le foulard. C'est plus un comportement, c'est qui fait qu'on est bon musulman ou mauvais musulman, que plutôt vraiment des mises en scène ou foulard ou pas foulard.
Alors à partir du moment où tu dis que c'est pas obligatoire, qu'est-ce qui fait que toi un jour tu as décidé de porter le foulard ?
Moi, tout simplement, en fait, je suis arrivée à un certain âge où je me posais des questions, je dirais plus fondamentale sur, je dirais, le sens que je voulais donner à ma vie, sur certaines choses, même mes vêtements. Donc il y avait des moments, en fait, je me rebellais, donc j'avais envie de mettre des jupes, lâcher mes cheveux. Donc voilà, donc, et à un certain moment, j'avais envie, j'avais l'impression que, comme si c'était mon corps, ne m'appartient pas. J'avais pas envie que ce soit ces soi-disant libérateurs de la femme qui vont montrer qu'est-ce que la femme émancipée me dit ce que je dois faire, ni aussi des traditionnels qui veulent m'enfermer sur une façon de lire la religion, ou parfois c'est même de la tradition, ça n'a rien à voir avec la religion. Alors que faire? Bon, c'était des questions que je me posais à l'âge de 14 ans, 15 ans, j'essayais d'évacuer le sujet. Bon, bah 16 ans, ça devient insistant, quoi. J'avais envie de m'approprier moi-même mon corps et de voir une façon... Bah là, tout simplement, bon bah comme tous les jeunes au début, donc je commence par un rejet de la religion. Après, je me dis, bah quand même, mince, enfin, ayant un esprit, je dirais, entre guillemets, scientifique, avant qu'on rejette la chose, il faut d'abord la lire, la comprendre, quoi. Et donc, c'est là où je commençais à faire mes recherches moi-même par rapport à la religion. Et là, ce qui m'a plu, en fait, dans l'histoire, en fait, du foulard, c'était surtout, en fait, de mettre en avant mes capacités, en fait, qu'elles soient intellectuelles, que ce soit mes valeurs humaines, mon comportement, et que les choses ne soient pas focalisées sur mon corps, sur mon aspect extérieur. Et je me rappelle, à l'époque, quand je prenais cette décision, déjà, que ce soit au niveau de ma famille, bon, ma famille, c'était traditionnel, mais pas au point d'arriver au foulard, quand même, quoi, parce que là, ça fait quelque chose qui fait peur. Donc, ils étaient contre. Et puis, au niveau de mes profs, à l'écoutume, mais mince, quand même, t'es une femme, on pensait jusque-là que t'étais une femme émancipée, libre et tout. Alors, qu'est-ce qui t'arrive de mettre un foulard? Je dis, mais attendez, moi, je suis la même personne. Si vous croyez à Khadija, la femme émancipée et tout, bah, Khadija, il est toujours là. Il y a que le foulard sur sa tête n'a pas changé. Et en quelque sorte, je me suis retrouvée encore pareil, sur les frontières.
Ta mère portait le voile?
Non, il le portait pas, en fait, avant. Maintenant, il le porte. Disons qu'en fait, au début, il portait un foulard traditionnel, on va dire le genre de foulard qu'on mettait derrière. Et puis, bon, bah, avec ses convictions et tout, donc à un certain moment, je crois que c'est elle-même qui a fait le choix, en fait, de transformer, si j'ose dire, ce foulard traditionnel à un foulard religieux.
Tu peux l'enlever, ce voile, si tu as envie?
Alors là, moi, pour moi, enfin, sur ça, franchement, les choses sont très, très claires. Pour moi, j'adopte les choses par conviction. Le jour où je serai pas convaincue de porter un foulard, je le porterai pas. Je l'ai pas fait par réaction. J'ai jamais mis, en fait, ce foulard-là par réaction. Mais le tout, c'est que j'arrive, moi, à me retrouver en équilibre et en harmonie avec moi-même.
نغلب ذنبا شنو يلعوان ويدك يس شواي نفوذ فرنت بالحرام أنغ يا ربي المعبود نلقوه من فوذ تسخيل لك صق ما
Cette plaidée à la Toulousaine, la première fois que je réagis, le témoignage de Khadija ne m'a rien appris de plus, si ce n'est mon grand étonnement quand elle dit que porter le voile, c'est un combat social. En quoi est-ce un progrès, je vous le demande. Moi, je dis assez d'hypocrisie et de complaisance vis-à-vis de toutes les religions, y compris l'islam. Par crainte de se faire traiter de raciste, l'on devrait prendre des pincettes, je refuse de faire l'autruche. Aujourd'hui, j'affirme que certaines femmes qui portent le foulard me font peur. Je précise bien certaines. À la place de vêtements, j'y vois un uniforme et cela me met mal à l'aise. J'ai grandi et je continue de vivre dans un quartier populaire qui s'appelle Bagatelle à Toulouse. J'ai toujours vu les mamans de mes copines porter le foulard et cela ne m'a jamais choquée. En 2004, ces mères continuent de le porter et cela ne me gêne pas. Ce qui m'effraie, c'est cette généralisation et systématisation du port d'un certain foulard marqué. Oui, comme les gens qui portent des marques. Si les hommes étaient logés à la même enseigne, je n'aurais rien à redire. Comme ce n'est pas le cas, où est l'égalité?
Oui, Daniel, bonjour. Jean-Marc dans le Var. Tu essayes de donner une caution morale au voile ou quoi? Cette femme est ingénieure. Ah bon? Ingénieur, c'est quelqu'un, hein? Pourtant, elle porte le voile. Extraordinaire, non? Je te signale, Daniel, que dans la secte du feu mage cosmoplanétaire de Cassedan, il y avait des ingénieurs. Il y en a encore, d'ailleurs. Comme dans Hare Krishna, comme dans l'église de Scientologie, etc., etc. Est-ce à dire qu'il faut être ingénieur pour donner de la respectabilité à tous ces mouvements intégristes? Comme par hasard, ton interlocutrice privilégiée voilée en a profité pour ressortir du tiroir Tariq Ramadan. Comme c'est bizarre. Après lui avoir offert une tribune, tu essayes de le remettre en selle? La lutte continue, camarade. Moi, pauvre con laïque, intégriste laïque si on veut, j'ai peur de toutes vos conneries démagogiques. Vous tisonnez le feu, le problème c'est que quand il prend force, on a parfois du mal à l'arrêter. Alors gaffe. Ciao.
Salut, Mermet. Oui, je t'appelais au sujet de l'émission de Radija. Donc elle nous a dit en fait que c'était son choix de porter le voile, mais ce que j'aurais bien aimé, alors je sais pas si lors de la prochaine émission, comme t'as dit que elle reparlerait, je sais pas du tout si en fait elle traitait de, enfin du pourquoi, parce que là elle nous a simplement dit bon bah c'est mon choix, vous avez parlé de l'historique, donc là ça a plus l'air d'être un voile de deuil, je dirais, par rapport à l'histoire. Mais j'aurais bien aimé savoir ce qu'il en est maintenant, mis à part ça, quoi, en fait. Hein. Voilà. Salut.
Voilà, des messages sur le répondeur de la Bastille. Je rappelle le numéro du répondeur, 01 56 40 37 37, donc suite à la rencontre hier dans l'émission avec Radija et qui intervient à nouveau aujourd'hui parmi vos messages et en espérant faire comprendre ce qu'elle a essayé de nous dire. Alors, je disais qu'elle était aussi une femme engagée, qui milite dans diverses associations, qui se dit sinon féminine, au moins féministe. Oui, absolument. Avec son voile, c'est pour elle, c'est pas du tout contradictoire. Plusieurs auditrices d'ailleurs l'ont dit, vous les avez entendues. Et beaucoup d'autres ont souligné cet aspect des choses sur le répondeur, sur les engagements et les polémiques qui intéresse Radija aujourd'hui. Voilà quelques-uns de ses propos recueillis par Olivia.
On n'en a pas parlé, mais le cas justement de Tariq Ramadan, alors la question elle est classique, mais t'as un ou deux de ses bouquins hein, dans tes étagères, tu me l'as cité tout à l'heure. Il faut en penser quoi?
Bah pour moi personnellement, c'est un intellectuel comme d'autres intellectuels, donc il y a certaines choses qu'il dit qui sont très intéressantes, et puis il y a d'autres sur lesquelles moi je suis pas d'accord avec lui, donc je me comporte avec lui comme n'importe quel intellectuel. Bon, mais par contre, c'est vrai, au niveau du média, vraiment, je crois qu'il y a un acharnement, une espèce de diabolisation qui ne passe pas inaperçu. Pourtant, c'est quelqu'un que je pense qu'il a joué un rôle important auprès des jeunes de la France et qu'il puisse se dire voilà, je suis français musulman. Avant, il y avait du mal en fait à ce que ces gens-là puissent conjuguer ces deux références. Ils avaient l'impression que c'est comme si c'était en contradiction. Mais sur ce sujet-là, je pense qu'on ne peut pas ne pas lui reconnaître ce grand travail qu'il a fait auprès, je dirais, des jeunes à les, entre guillemets, décomplexer, quoi. Ouais, ben, en effet, je crois qu'il y a une image qui est véhiculée, qui carrément, il colle une étiquette. Moi, j'ai fait des enquêtes auprès de certains jeunes de banlieue dans mon travail en sociologie. Et ils me disaient, en fait, que voilà, on a l'impression qu'on trimballe déjà une marque avec nous, quoi, coller une étiquette. Et surtout par rapport aux garçons arabes, quoi, ce qu'on véhicule, en gros, le 3V, quoi. C'est un voileur, violeur, voleur. Donc, en gros, il passe dans la cage pour faire sa prière. Après, il va violer. La fille, et puis après il monte pour voiler sa sœur, quoi. Donc vraiment, c'est de la caricature, et pourtant ça passe.
Grosso modo, déjà tu n'es ni pute ni soumise.
Oh là là, oh là là. Ah là là, vous essayez quoi là? À politiser vous aussi en fait le débat là?
Non, j'aimerais savoir ce que tu penses de cette association.
Ouais, bah je pense en fait que c'est une association qu'au début, ils ont effectivement commencé par dévoiler certains problèmes dans les banlieues et tout, qui étaient sérieux, où il n'y avait pas de la manipulation. Rapidement, ils se sont fait récupérer par le PS, donc maintenant c'est plus un tabou, il faut le dire directement, par le PS, et maintenant c'est vraiment un mouvement très très manipulé, que pour moi, je le dis, il sert vraiment à stigmatiser une certaine communauté, et surtout à stigmatiser aussi, je dirais, le garçon arabe, quoi, qui fait subir ces délires culturels à la femme, en fait, musulmane.
On n'a pas parlé de ton engagement dans des termes très clairs, mais en gros, donc tu disais, tu es très impliqué dans le milieu associatif, non confessionnel. Tu t'es pas mal engagé au moment du débat sur la laïcité.
La commission Stasi, donc j'ai suivi un petit peu les travaux de la commission Stasi. J'avais envoyé moi une lettre à Bernard Stasi justement pour se faire auditionner. Surtout sur un débat qui était quand même, je dirais, des auditions qui ont tourné que sur autour du foulard et tout, et qu'on a vu parmi, je crois, les 140 personnes qui ont été auditionnées, il n'y avait que une ou deux filles qui portaient le foulard qui ont été auditionnées, ce que je trouve, moi, extraordinaire.
Il y a eu aussi un échange assez piquant, je crois, avec Philippe Soler, c'était à propos de quoi?
Oui, c'était en fait le Sénat, c'était porte ouverte au Sénat, et l'après-midi, il y avait en fait un débat, et quand moi, je voulais prendre la parole, donc il y avait quand même, je dirais, des discussions musclées un petit peu avec Jean-Pierre Elkabbach et Soler, donc lui, il était là, et puis je me retrouve première page de Le Monde, il parlait en fait de l'arbre qui cache la forêt, le titre de son article. En gros, il parle de moi. Et après, il disait, voilà en fait ce qu'il a provoqué son intervention. Et en gros, c'était pas très important de savoir ce qu'il a dit ou de réfléchir là-dessus. Et voilà ce que je veux moi lui enseigner. Ce que je trouve quand même prétentieux. Et donc moi, ma réponse à lui, c'était, avant de prétendre, je dirais, m'enseigner quoi que ce soit, peut-être qu'il faut apprendre à les écouter. Et qu'en fait, en gros, là, il est en train de reproduire, je dirais, un schéma colonial, ces indigènes. Peu importe ce qu'ils disent, ce qui est important, c'est l'analyse que nous, on va faire. Et après, ils n'ont qu'à accepter qu'on est là à les civiliser, qu'on est là et on les aime très, très fort, quoi. Et ils n'ont qu'à comprendre que c'est vraiment pour leur bien qu'on fait ça. Et ben voilà, moi, mon article, c'était justement de lui renvoyer ces propos-là et de lui dire « Arrêtez de prétendre m'enseigner quoi que ce soit ». Il faut apprendre déjà à rentrer dans une relation d'égal à égal. Et là, on peut en parler.
Bonjour, c'est Sabrina Fayaspour de Caen. Donc, j'apprécie beaucoup vos émissions. Je viens d'écouter le témoignage de Radija, qui m'a laissé, je vous avoue, assez perplexe. Voilà, moi, je suis mariée avec un musulman. Je suis moi-même musulmane, enfin officiellement, puisque mariée avec un musulman, pas pratiquante. Mais mes beaux-parents sont pratiquants, donc l'islam, je connais un petit peu quand même. Et c'est vrai que j'ai l'impression que Radija, elle a un gros, gros problème d'identité. Enfin, apparemment, elle porte le foulard justement pour revendiquer une histoire, pas par religion. Et c'est vrai que moi, ça me laisse perplexe. Moi-même, je vais être obligée de porter le foulard dans 3 semaines, puisque je me rends dans un pays où c'est obligatoire. Bien sûr, c'est pas de gaieté de cœur, mais bon, je respecterai la règle. Mais par contre, je comprends pas tellement qu'on le porte pour revendiquer une identité. Je crois qu'il y a une autre façon de revendiquer son identité. Et c'est vrai que là, à mon avis, ça relève plutôt de la psychanalyse. Mais bon, quoi qu'il en soit, elle a l'air très gentille. Radija, elle a l'air de faire très très bien la cuisine. Et je la remercie quand même de son témoignage parce qu'elle m'a appris des choses sur le dévoilement des femmes, ce que je trouve absolument ignoble, hein. Je sais que dans le pays où je vais aller, ça s'est fait aussi. Donc c'est vrai que ça, je ne le savais pas. Et ça m'a appris des choses, effectivement. Ça fait réfléchir quand même, c'est vrai. Au revoir.
Et bonjour, Daniel Mermet. Voilà, je voulais juste parler de l'émission que je viens d'écouter, une fois de plus, sur le voile. Voilà, et dire que j'ai beaucoup... aimé l'intervention de cette jeune femme qui s'est exprimée très clairement, très calmement et qui nous a appris vraiment beaucoup de choses sur son état d'esprit vis-à-vis de tout ce qui s'est passé durant toute l'année dernière à propos de ce fameux voile. Et lui dire aussi qu'elle n'est pas la seule à avoir pensé qu'il y a eu une grande manipulation dans toute cette histoire. Dans quel but franchement, je pense surtout dans le but de stigmatiser la population arabo-maghrébine surtout, parce qu'à part les Arabes qui représentent l'islam, on n'a pas vu d'autres catégories de gens. Je dis ça parce que moi, je suis entourée de beaucoup de musulmans qui ne sont pas du tout arabes. Et comme par hasard, à chaque fois qu'on voit des musulmans, que ce soit à la télé ou à la radio, ce sont souvent toujours des arabes. Alors je comprends pas. Maintenant, être musulman, c'est devenu une origine. Parce que jusqu'à présent, je pensais que c'était une croyance avant tout. Et là, ça devient carrément une origine et c'est très très dangereux. Et aussi lui dire que elle n'est pas seule dans ce cas-là par rapport à sa pensée, à sa façon de voir les choses en dehors du grand mélange qu'on fait, du grand melting pot plutôt qu'on fait de tout ça, de l'islam, de l'arabe en général, et lui dire aussi que tous ces musulmans qui sont censés représenter les musulmans, en fait, ne représentent qu'eux-mêmes, et que chaque personne est très libre en elle-même et vit sa foi comme elle le sent. Et tous ces gens qui sont complètement manipulés, je veux dire, font ça surtout pour se mettre en avant eux-mêmes. Et je dirais que même Jean-Marie Le Pen a ses arabes de service. Voilà, c'était Nadia d'Avignon. Et j'aimerais aussi vous dire que j'aimerais correspondre avec cette femme. Donc si vous voulez bien me donner ses coordonnées, je vous laisse mon adresse.
Si certains font leur prière en chantant, tu l'as fait en toussant ta prière. Hein.
Ouais, on va dire ça comme ça, parce que c'est vrai que je suis un petit peu enrhumée, donc j'ai fait ma prière tout en toussant. Ouais.
C'est combien de fois par jour?
C'est 5 prières par jour.
Tu les respectes toutes?
J'essaie de mon mieux de les respecter, sachant que quand on travaille, c'est pas toujours parfois évident. Donc après, il y a certaines souplesses au niveau de la religion pour permettre que la prière ne soit pas une contrainte. Donc je peux regrouper par exemple deux prières. Je regroupe par exemple celle de, enfin on va dire midi ou 13h. Et celle de 4 heures. Personnellement, en fait, c'est que j'arrive toujours à m'arranger, en fait, à trouver un créneau. Comme je disais, ça peut être, bon, bah, la prière, ça prend pas plus que, je dirais, 5-10 minutes. Donc, soit, par exemple, à côté de mon lieu de travail, ou bien, si c'est, en fait, des amis conviviales, bon, là, on peut toujours trouver des minutes. Mais sinon, enfin, c'est vrai qu'en fait, la question qui se pose, comme il n'y a pas des mosquées partout, comme une église qu'on peut trouver, en fait, à côté du et tout, c'est que moi personnellement ça m'arrive parfois de faire ma prière dans des églises, donc je rentre, je fais vite fait ma prière et je sors. Là récemment par exemple on avait les entretiens d'Auxerre, mais à Auxerre il y a une belle cathédrale d'ailleurs que je trouve superbe, et là je me rappelle je demandais en fait à un des prêtres que j'ai rencontré, je lui dis est-ce que je peux faire ma prière ici. Bon, ben voilà, il a vu le sourire, il m'a dit oui, bien sûr. Je dis ça pose pas de problème. Il m'a dit ça pose aucun problème. Bon, ben voilà, j'avais un petit foulard dans mon sac, je suis sortie. Je me suis mis dans un petit coin, enfin, une petite chapelle, on va dire. Et puis voilà, j'ai fait ma prière en tant que musulmane. Je crois pas que j'étais moins sincère, moins déconcentrée par rapport au fait que je le fais dans une église. Je crois que parfois, il faut pas non plus tout rendre difficile, tout. Je crois que la difficulté, parfois, c'est nous qui la créons, quoi. Je crois que c'est aussi, en fait, cette souplesse qu'il faut avoir et qu'il faut arrêter, parfois, de diaboliser aussi le religieux ou de voir dans tout religieux une sorte de guerre, quoi, y compris dans les lieux.
Voilà, l'auditrice du début. avait bien raison, c'est la décadence. Ils colonisent nos églises maintenant. Merci à tous. Merci à tous pour les messages. Je rappelle encore une fois le répondeur de la basse édition. Le 01 56 40 37 37. C'était un reportage d'Olivia Gesbert. À lire, je vous rappelle, le bouquin de Saïd Bouamama. L'affaire du foulard islamique, la production d'un racisme respectable, c'est aux éditions du Jet Bleu, et puis le livre d'Alain Grèche, L'Islam, la République et le Monde, aux éditions Fayard. C'était au cours de cet entretien avec Alain Grèche qu'on avait rencontré Radija pour la première fois. Et puis, que va faire Pascale Pascariello ce week-end? Eh bien, elle va aller au Festival de la Chanson Contestataire, avec des concerts organisés à la Cité de la Musique, à Paris 221, avenue Jean Jaurès, dans le 19e arrondissement, samedi 18 et dimanche 19, Festival de la Chanson Contestataire. Technique aujourd'hui, Clotilde Clemat et Pascal Baldassari. Yann Chouquet, c'est les musiques. Christophe Imbert, c'est le répondeur. Pascal O, Pascariello, elle fait tout le reste. Et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale. On se retrouve lundi à 17h pour la basse J'y suis dans de nouvelles aventures. Bonne fin de semaine à tous. Après, ben, y a pas de pub. Vous avez beaucoup de chance. C'est vendredi. Après, donc, rien du tout. On retrouve Frédéric Bonneau pour Charivari. Salut.